et France 24 présentent
Mardi Politique.
C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Et ensemble nous recevons Patrick Kanner, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe socialiste et écologiste du Sénat, bienvenue à vous. La gauche traditionnelle a relevé la tête dimanche avec de bons résultats, même si la droite reste au-dessus. Mais ce que l'on retiendra bien sûr avant tout, c'est la débandade des électeurs. Qui sont les responsables d'après vous de ce je m'en foutisme ?
Responsable au pluriel, vous avez raison de le souligner. Il y a eu des responsabilités d'ordre technique, je pense qu'il faut le rappeler, à ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent. L'absence de distribution de profession de foi a été un élément complémentaire du désintérêt des Français pour cette élection. Ça peut paraître anecdotique, non. Quand on est à plusieurs millions de Français qui ne reçoivent pas leur propagande électorale, sur la forme consacrée, c'est un vrai problème démocratique.
Vous avez vraiment que ça a pu peser sur les résultats?
Écoutez, moi je peux vous dire que les personnes âgées que je connais bien dans mon canton lillois, dans mon ex-canton lillois, m'ont dit, Monsieur Kanner, on a perçu notre matériel, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a eu un phénomène de confusion pour beaucoup de personnes, moi je le regrette. Si vous voulez, dans le climat actuel, ça a rajouté au désordre.
Mais là, on a le sentiment que vous mettez la faute sur l'État, puisque c'est lui qui est chargé de...
Et sur le ministre de l'Intérieur en particulier.
Voilà. Mais quand même, parce que cette...
C'est pas la seule raison.
Non.
Évidemment.
Mais quelle est, dans le fond, l'autocritique? Je parle pas du Parti Socialiste en l'occurrence, mais du personnel politique.
Je recommencerai par la question technique. Je pense qu'il faut que nous acceptions, dans notre pays, le vote par correspondance, le vote à distance, le vote sur plusieurs jours, comme dans toutes les autres grandes démocraties dans le monde. Il faut arrêter de considérer que le passage à l'urne soit la seule solution. Et il y a beaucoup de jeunes qui auraient voté de manière numérique, puisqu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui n'habitent pas sur leur lieu.
Sur un smartphone, vous voulez dire, par exemple?
Bien sûr, avec toutes les identifiants, etc. On peut
sécuriser.
Est-ce que ça pose
pas un problème de liberté de vote? Parce que quand vous êtes dans l'isoloir, vous êtes a priori seul au moment où vous mettez votre bulletin. Personne ne voit ce que vous choisissez. Quand vous voulez voter sur votre smartphone, vous pouvez être sous influence, vous pouvez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Qu'est-ce que je vous dis? Aujourd'hui, vous avez vu le taux d'abstention chez les jeunes.
Ouais.
C'est le smartphone qui fonctionne, c'est l'ordinateur. Donc, si on veut permettre aux jeunes, finalement, de contribuer à la démarche démocratique, eh bien, adaptons aussi nos méthodes. Mais qu'il n'y ait pas de malentendu. Ça ne suffira pas à régler le fait qu'il y a eu 60% des électeurs qui ne sont pas venus voter dimanche, comme d'ailleurs au premier tour.
Oui, mais ça montre aussi que la politique est une forme de champ d'impuissance aujourd'hui. C'est-à-dire que les électeurs sont passés de la droite à la gauche, de la droite à la gauche.
Oui,
comme si,
ça c'est le résultat.
Pascal Perrineau nous disait la semaine dernière sur ce plateau, comme si les électeurs dessoulaient de l'alternance.
Oui, c'est aussi le résultat du ni droite ni gauche pendant 5 ans qui marque ses effets et qui s'arrête par le clivage droite-gauche que nous avons retrouvé dimanche. Non, mais le vrai problème, c'est que les électeurs aujourd'hui, quand vous prenez un peu de temps pour les écouter, ils nous disent « mais bon, à quoi ça sert ?» C'est ça, cette phrase, je l'ai entendue de nombreuses fois. « À quoi ça sert ?»«
À quoi bon ?»«
À quoi bon ?» Dire « voilà, bon, vous êtes là, mais finalement, passé, il n'y a rien à voir. » Donc, on a un problème de réadhésion de l'électorat à la chose politique, à la Respublica, très concrètement. Et ça passe sûrement par une rénovation aussi de notre mode de fonctionnement. Moi, je suis sénateur. J'ai essayé, au début de mon mandat, et je le reconnais, de mettre en place des ateliers législatifs citoyens dans le département du Nord. C'est-à-dire de dire, voilà, sur un sujet, venez, on se réunit à 10, 15, 20, et on va travailler ensemble sur peut-être des propositions d'amendements. Sur un texte de loi, pas tous les textes de loi, mais sur les textes les plus importants. Je vous assure que j'ai été déçu. J'ai eu quelques personnes qui sont venues alors que j'étais disponible pour discuter avec elles. Ça signifie concrètement qu'aujourd'hui, ce désintérêt est lié au fait que la politique, peut-être, n'est plus capable de changer la vie des gens. Et là, c'est pas un problème droite-gauche, c'est un problème pour toute la classe politique.
Est-ce que vous ne croyez pas que les Français ont peut-être aussi la conscience, au fond, que les parlementaires, aujourd'hui, n'ont quasiment plus de pouvoir et que c'est l'exécutif qui contrôle tout au Parlement?
Ils n'ont pas tout à fait tort.
Ben oui, mais
c'est
pas un problème, ça.
Et notamment depuis la crise sanitaire, il est clair que le Parlement a été mis sous boisseau. On a adopté, je crois, plus de 90 ordonnances, c'est-à-dire on s'est déchargé de nos responsabilités au profit de l'État. Sans être juriste, ouais. Je pense que tout le monde comprendra 90 ordonnances aujourd'hui sans que le gouvernement rende des comptes réellement. Et donc ça, c'est un vrai problème. Le Parlement, aujourd'hui, dans notre pays, est sous-estimé, je dirais même maltraité, pour des raisons exogènes, la crise sanitaire, mais fondamentalement, la personnalisation du pouvoir autour d'Emmanuel ouais. Macron, plus que jamais.
Autour du président de la République, c'est
mais,
le système. Quand
même. Oui, c'est le système de la cinquième, mais je réinsiste, la bunkérisation presque ouais. du pouvoir autour d'Emmanuel Macron, aujourd'hui se traduit par une forme de, finalement, tout tourne autour de lui. Quand vous lisez la future interview qui va sortir dans un grand journal féminin d'Emmanuel Macron, il a cette phrase qui est terrible. Il dit, mais finalement, on a perdu les élections départementales et régionales, mais c'est parce que je ne me suis pas impliqué. Quand je me suis impliqué aux élections européennes, ça a été beaucoup mieux. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que aujourd'hui, tout passe par le filtre, le prisme d'un seul homme. Moi, je suis inquiet pour notre démocratie.
Oui, parce qu'il joue 2022 sur sa personne et complètement. On comprend ce qu'il veut.
La Macronie, oui. La Macronie, c'est avant c'est tout lui. Emmanuel Macron. Il est l'alpha et l'oméga de la Macronie. Il est la pyramide de la Macronie, même s'il repose sur sa pointe aujourd'hui. Il est la voûte et la clé de voûte. Il est tout à la fois. Ça ne
Alors,
peut pas durer longtemps.
Le meilleur score a été réalisé par la socialiste en Occitanie.
Carole Delga.
Voilà, championne de France des sortants avec 58%. Et elle a fait ce score sans alliance, ni avec la France insoumise, ni avec les Verts. Est-ce que vous en tirez donc un enseignement que la gauche, d'abord, est relégitimée toute seule et qu'elle n'a pas besoin de s'allier si elle veut gagner. En tout cas, si vous n'en tirez pas une leçon nationale, parce que c'est vrai pour le local.
Est-ce elle
que
a eu des soutiens. Elle a eu des soutiens quand même de partis politiques. Je pense Parti communiste, qui d'ailleurs a été notre soutien dans les 5 régions socialistes sortantes, dans une logique de grande responsabilité.
Enfin, le Parti communiste, pardon, aujourd'hui, voyez, en Val-de-Marne, là où était Georges Marchais,
je le regrette, et notamment parce que les Verts en Val-de-Marne ont eu des positionnements politiques au second tour qui ont fait que, malheureusement, on a perdu ce département. Bon, c'est un débat qui se réglera en famille, permettez-moi l'expression. Je considère aujourd'hui que ces élections régionales ne peuvent pas être modélisées sur une élection à venir. Il y a eu des régions, je pense à François Bonneau, en région Centre-Val-de-Loire, qui a eu besoin d'un soutien d'autres formations politiques que le Parti communiste. Donc chaque président a jugé le rapport de force. Loïc Chesnais a gagné son élection en Bretagne, Chesnais Girard, sans avoir le soutien des Verts. Il a pris une autre sensibilité verte. Donc, les alchimies locales ne peuvent pas devenir des modèles nationaux. Je crois qu'il faut le dire très simplement. Mais le résultat est là. À chaque fois que des socialistes, certes sortants, primo sortants, ont tiré la liste, il y a eu la gagne. À chaque fois que les socialistes ont été derrière d'autres, eh bien, le résultat n'a pas été médiocre, mais en tout cas, peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Ouais. Ce que je veux dire là, c'est que le Parti Socialiste...
C'est qu'il faut un candidat socialiste en 2022.
On va y venir, ouais. Mais on doute pas. mais ce que je veux dire, c'est que on ne demande pas, enfin on ne s'arroge pas le leadership aujourd'hui à gauche. Ce sont les électeurs qui dimanche...
C'est pas de votre faute, si vous plaisez.
On l'a cherché. Mais en tout cas, les électeurs ont estimé que pour les élections locales, je suis très prudent, pour les élections locales, le bilan des socialistes sortants méritait d'être reconnu et confirmé.
Dites-moi, on a vu apparaître pour la première fois au cours de ces élections une sorte de front républicain contre la France insoumise et Europe Écologie Les Verts de la part de la droite, des républicains en particulier. Mais finalement, Carole Delga n'a pas voulu non plus. Est-ce que vous pensez qu'il faut considérer ces deux mouvements comme des mouvements qui appartiennent aux extrêmes ? La France insoumise, Europe Écologie Les Verts.
Europe Écologie Les Verts, certainement pas.
Aucun parmi eux.
Vous savez, il peut y avoir des extrémistes partout dans chaque parti.
Oui, enfin, dans ce cas-là, il faut le dire.
Mais je considère que la philosophie et le classement politique de LFI est à la gauche extrême du paysage politique. Et quand je dis extrême gauche, pour moi, c'est pas une injure. On a le droit d'être à l'extrême gauche du paysage politique. Ça ne répond pas manifestement à la demande. Il y a eu une illusion. Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017 liée à la faiblesse du candidat à l'époque socialiste, devenu Génération S, Benoît Hamon. Donc il y a eu une vague, il y a eu un trou, non pas de souris, mais vraiment un trou politique qui a permis à Jean-Luc Mélenchon d'apparaître comme étant une, voilà, le candidat de la gauche. Aujourd'hui, je crois que si la gauche social-démocrate, ma famille politique, présente un candidat ou une candidate, je pense que les choses seront très différentes. Mais avant de passer au niveau national, vous dire quand même que le principal enseignement de ces élections départementales et régionales, c'est quand même la rouste, la nouvelle rouste qu'a pris le parti présidentiel.
Oui, mais ça, elle était prévue, non ?
C'est pas parce qu'elle est prévue qu'elle n'est pas pour autant importante.
Oui. J'entends bien.
Elle est cuisante.
Mais alors, et aussi le Front National qui baisse. Et ça, ça me fait un immense plaisir.
Alors, on comprend que la gauche traditionnelle reprenne des couleurs et redonne un espoir. Mais en 2017, vous avez fait 6% avec Benoît Hamon.
Christian on a fait 6% aux européennes.
Voilà. Vous brandissez ça comme une fierté, j'ai l'impression.
Non, mais on part de loin.
On part de loin.
On part de loin.
Donc, vous voulez dire que vous ne pouvez pas descendre plus bas ou vous pouvez que progresser ? Mais il faudrait pour ça un candidat. Alors, certes, on est encore à 300 jours, je crois, des élections présidentielles. Hidalgo, ira pas ?
Alors, je vais vous répondre naturellement. Tout d'abord...
Vous attendez le déluge ?
On a arrêté l'hémorragie aux élections municipales. On a repris des couleurs aux élections municipales. On en reprend aujourd'hui aux élections départementales et régionales. Je ne me fais aucune illusion, ce sont deux élections très différentes. Mais il vaut mieux avoir un socle territorial puissant, ou en tout cas qu'il le redevient, que rien du tout. Je pense que M. Macron aura plus de difficultés cette fois-ci, puisque l'illusion, là aussi, va disparaître. C'est un candidat sortant et qui n'a pas de soutien au plan local. Et c'est une élection où on a besoin de soutien au plan local. Mais il est très fort, très intelligent, très brillant. Peut-être que sur sa seule personne, il pourra s'en sortir. J'attends pour voir. Pour ce qui nous concerne... Aujourd'hui, j'ai toujours dit ce que je vais vous annoncer. Je considère qu'il n'est pas possible que la famille social-démocrate, ma famille, n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle.
Votre famille ou votre parti ?
Ma famille, la famille social-démocrate est plus large que le parti socialiste.
Oui, mais...
Je rajoute les radicaux, etc. Donc, je considère...
Mais aujourd'hui, les socialistes qui ne sont pas et ne se sentent pas social-démocrates.
Il y a les socialistes qui, surtout... ont été parfois surpris des positions de leur parti sur le fait que peut-être nous pourrions être derrière, notamment un vert. Ce que faussement on a appelé la stratégie d'effacement, que le mot n'a jamais été utilisé par Olivier Faure, premier secrétaire, mais c'est vrai que par moments on se demandait, mais sur l'autel de l'Union, allons-nous nous sacrifier et finalement rentrer dans une démarche crépusculaire pour le PS ? Ça n'a jamais été ma position. Et aujourd'hui, encore moins au regard des résultats de dimanche dernier. Et donc, sur la base d'un projet, sur la base d'une stratégie électorale et sur la base d'une incarnation, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, Anne Hidalgo correspond potentiellement à ce renouveau, cette renaissance pour la famille que je représente. Une famille qui devra quand même se remettre en cause. Le Parti socialiste d'Épinay, aujourd'hui, est presque inadapté par rapport à la vie politique française. À Épinay, on parlait de la justice sociale, on parlait des nouvelles libertés. Il y a 50 ans, il fallait le faire. Et on a gagné 81 comme cela. Mais aujourd'hui, la réalité des faits, c'est que les Français veulent aussi de la République, de la force, de l'autorité. Finalement, l'expression qu'a utilisée Ségolène Royal à l'époque, l'ordre juste, et quelque chose qui, je pense, peut parler aux Français.
Vous dites, Patrick Kanner, il faut que la candidature d'Anne Hidalgo devienne une évidence.
Une évidence.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu antinomique dans cette formulation ? Parce que une évidence, précisément, est-ce qu'elle ne s'impose pas de manière absolue ?
Aujourd'hui, rien ne s'impose.
Ben oui, mais une évidence, en principe, ça s'impose. Enfin, je ne sais pas, il me semble.
Elle se construit. Vous savez, est-ce qu'on peut claquer les doigts en disant...
Est-ce qu'elle se construit ?
En tout cas, j'apprécie le caractère très sémantique de votre propos, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat.
Ouais.
Aujourd'hui, Anne Hidalgo est dans une logique d'affirmation d'une potentielle candidature. Je dis bien une potentielle candidature.
Ouais.
Elle n'est pas...
Qui va être désignée comment, d'ailleurs ?
Aujourd'hui, candidate. Vous savez...
Primaire, pas primaire ?
Je suis guéri des primaires.
Oui, comme beaucoup.
À titre personnel, comme beaucoup. Je suis guéri des primaires. Donc, pour ça que j'ai parlé d'évidence. Il vaut mieux que notre famille politique soit représentée par une candidature qui, finalement, s'impose naturellement comme étant la plus pertinente, y compris par rapport au combat qui est le nôtre, qui est aussi un combat écologiste. Mmh. Vous avez évoqué le nom de mon groupe, madame, et à juste titre, groupe socialiste, écologiste et républicain. Et on a mis le mot écologiste supplémentaire. Les écologistes ont gagné idéologiquement. Ils ont fait que, après un travail énorme...
Oui, mais ils ne gagnent pas dans les urnes, ils gagnent dans les esprits.
C'est une belle victoire, déjà. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement... Olivier Faure a parlé d'un plafond de verre ou un plafond vert. Je trouve que les mots sont un peu trop forts parce que il faut respecter nos partenaires potentiels en tant que tels. Et j'estime que aujourd'hui, notamment pour l'élection présidentielle, la meilleure candidature est sûrement une candidature social-démocrate.
Vous dites que les écologistes ont gagné idéologiquement. Il y a quelques instants, vous vous réjouissiez de l'affaiblissement du Rassemblement national dans une élection locale. Est-ce que vous êtes sûr que les idées du Rassemblement national n'ont pas aussi idéologiquement largement conquis les esprits en France?
La droitisation de la société est évidente, notamment sur les questions de sécurité. Le fait que sur les élections régionales et départementales, le thème principal qui soit sorti soit le thème de la sécurité, est pour moi une vraie interrogation.
Oui, c'est pas les compétences des régions. Donc.
Premièrement, et non pas que les questions de sécurité ne me désintéressent, mais on n'était complètement pas dans le champ des compétences.
Bah oui.
J'ai même vu des sondages qui montraient que les Français pensaient que les régions pouvaient s'occuper de l'armée. Enfin, oui, c'est pour vous dire qu'on a un peu d'instruction civique à avoir à un moment donné. Donc, aujourd'hui, ces questions de république et d'autorité républicaine se posent. Le candidat socialiste ou la candidate socialiste devra intégrer ces préoccupations. La justice sociale, une évidence. Aujourd'hui, les inégalités se creusent. Mais la question de l'autorité de l'État, de la sécurité, du poids de la justice seront des sujets essentiels.
Des retraites. Emmanuel Macron veut remettre sur la table la réforme. Oui. Et il veut un départ à la retraite à 64 ans. Est-ce que, alors que le déficit est immense, est-ce que faut le faire?
Oui. Ce qui est extraordinaire depuis ce quinquennat, c'est qu'Emmanuel Macron considère que c'est au plus grand nombre de payer la casse. Et notamment avec cette réforme qu'il annonce, une provocation pour moi, d'annoncer ça maintenant. Moi, je suis prêt à ce que tout le monde fasse un effort, mais y compris ceux qui ont profité le plus de la crise sanitaire. L'indécence de l'enrichissement des plus riches dans notre pays doit être, non pas contrecarrée, mais analysée. Et moi, je suis pour une solidarité active entre les Français. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, nos concitoyens les plus fortunés doivent contribuer à l'effort national et pas uniquement les classes moyennes et les classes populaires.
Mais voilà, bon, on n'a pas le temps d'une question supplémentaire parce que sinon vous n'aurez pas le temps. On pourrait poser une question.
Allez-y.
Techniquement. Non, vous n'aurez pas le temps de répondre. Donc ça ne sert à rien.
Non.
Merci Patrick Caner.
Merci beaucoup d'avoir été sur France 24 RFI.